France Inter.
Aujourd'hui, dans notre série Affaires sensibles, remonte le temps, le supplice de Robert-François Damiens. Le 5 janvier 1757, cet homme simple domestique s'infiltre canif à la main dans la cour du château de Versailles. Plus tard, il expliquera à ses juges avoir simplement voulu toucher le roi. Sauf que l'entaille dans le flanc droit de Louis XV est sérieuse. Et celui-ci, avec un certain sens du drame, le dit lui-même « Je suis assassiné ». Il faut dire qu'en ces temps troublés, Louis n'est plus le bien-aimé du peuple, comme on le surnommait au début de son règne. Sa politique et ses mœurs sont décriées, et il ne manque pas d'ennemis. Alors, acte isolé d'un minable illuminé ou complot visant à assassiner le roi, l'enquête est ouverte. Mais au-delà de la quête de vérité, la punition de ce crime de lèse-majesté se doit d'être exemplaire. Sur la place publique, Damiens est donc brûlé, tenaillé, écartelé, sans anesthésie, ça va sans dire. Et pour que le spectacle soit complet, on va le démembrer devant une foule médusée. Un acte d'une indicible cruauté, comme seule la monarchie, barbare, consanguine et perverse, sait produire. Une scène que Michel Foucault nous ferait vivre au début de son magistral « Surveiller et punir », en posant cette question fondamentale, peut-il exister une juste violence ? Notre invité Nicolas Vidoni, historien, auteur du chapitre consacré au procès de Damiens, dans l'ouvrage « Les grandes affaires criminelles du Moyen-Âge à nos jours », livre paru chez Tempus en 2022. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire, Bastien Jans, rédaction en chef, Franck Cognard, chargé de programme, Rebecca Denante, réalisation, Frédéric Milano.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
5 janvier 1757, cour du château de Versailles. La nuit est tombée, la neige recouvre les pavés d'un voile sinistre. Le silence est parfait. Si ce n'est ces deux silhouettes-là, de mauvais augure qui parlent à voix basse, eh bien dit l'autre, eh bien j'attends, répond l'un, qui porte un chapeau tricorne. À quelques mètres de là, une cinquantaine de gardes du corps du roi et des valets attendent, frigorifiés autour du carrosse royal. À 5h45, précisément, on annonce le roi. Et d'un seul coup, tout ce petit monde se met au garde à vous. La silhouette flasque et emmitouflée de Louis XV apparaît alors en haut d'un grand escalier de pierre, entouré de ses proches courtisans. La garniture, comme on les appelle, ces parasites du château, oisifs et détestant le peuple, jouissant de leurs privilèges à plein temps. La descente du souverain est laborieuse. Le roi manque à chaque pas de glisser et chacun retient son souffle. Soudain, sorti de nulle part, et en un éclair, une ombre fend la foule et accélère le temps. Personne n'est tout à fait sûr de ce qu'il a vu, si ce n'est cette anomalie. On ne s'approche jamais du roi sans ôter son chapeau.
Déposition de Pierre-Charles Selim, valet de pied du roi.
Le jour d'hier, sur les 5h15, étant de service et à portée de monter derrière le carrosse du roi, le déposant vit, alors que Sa Majesté descendait pour monter dans son carrosse, un particulier inconnu vêtu d'une redingote, ayant sur sa tête un chapeau noir uni. Le particulier a percé entre la garde du roi et le déposant, et s'est jeté précipitamment sur le roi, lui a mis la main gauche sur l'épaule, et de l'autre a vraisemblablement porté le coup dont Sa Majesté a été blessée. Mais le déposant n'a point vu le coup porté.
Déposition de Jean-Louis-Nicolas Claude de Hédouville, garde du corps du roi.
Le déposant vit le particulier qui s'élança comme s'il voulait passer entre le roi et monsieur le dauphin. Auparavant, le déposant avait dit au particulier « Il vous convient bien de paraître devant votre maître le chapeau sur la tête ?» À quoi le particulier répondit « Voilà comme je suis toujours. »
Bref, le flottement est total. « Voilà un ivrogne qu'il faut arrêter !» s'écrit le duc d'Aillon, le capitaine de la garde. « Cet ivrogne m'a donné un coup de poing en passant, » lui répond le roi, ému, avant de passer une main sur son côté droit, là où il a été frappé. Il sent alors un liquide qui transperce l'épaisse couche de velours et de tissu qui protège du froid son corps sacré. Louis XV manque de s'évanouir quand il se rend compte que ce qui file à présent entre ses doigts, c'est le sang impur des monarques, soi-disant bleu, le sien. Quant à l'ivrogne qui n'a pas posé une goutte, soit dit au passage, il ne cherche même pas à s'enfuir. Sous son chapeau, Robert-François Damiens se tient là, contemplant, presque médusé, le personnage qu'il a osé poignarder. Dans sa poche, il a glissé son canif à deux lames rétractables. Et c'est la plus petite, celle de 12 cm, qu'il a logée entre la quatrième et la cinquième côte du roi. C'est cet homme-là qui m'a frappé. Qu'on l'arrête et qu'on ne lui fasse pas de mal, s'écrie le roi, avant de se lamenter. Pourquoi me tuer ? Je ne fais de mal à personne. Louis est ramené d'urgence dans ses appartements. L'ensemble des médecins, avocats et prêtres du château accourent à son chevet. On le saigne deux fois et trois fois on lui donne extrême onction. À la reine Marie Leschinska, Louis déclare d'un ton dramatique « Madame, je suis assassiné ». C'est vrai qu'il n'y a rien de plus dangereux que de se faire tuer. Bientôt, Paris, puis tout le royaume est mis au courant. Le roi est assassiné. Et d'un seul coup, tout s'arrête. Tous les spectacles et autres manifestations publiques sont annulés. On crie, on pleure, on fait retentir le Te Deum. Les récits de l'événement se propagent dès le lendemain. Dans la Gazette d'Amsterdam, on relate l'attentat des plus énormes qui vient de plonger Paris dans la douleur et dans l'inquiétude. Dans le Courrier d'Avignon, l'autre grand organe de presse indépendant de l'époque, les beaux sont tout aussi enflammés.
Le 5 à 6 heures du soir, un monstre travesti en colporteur saisit l'instant où Sa Majesté montait en carrosse à Versailles et frappa le roi d'un coup de poignard au côté droit. Il n'est pas d'attentat si noir et si monstrueux dont la malice humaine ne soit capable après celui qui vient d'être commis contre la personne sacrée du roi. On ne pouvait s'attendre dans un siècle comme le nôtre, où les mœurs sont plus adoucies que dans la férocité des siècles barbares, qu'un roi, surnommé le bien-aimé, un roi aussi modéré envers les ennemis de la France que clément et paternellement tendre pour les Français, fût en proie à la fureur d'un nouveau Ravaillac.
Ravaillac, un nom surgissant de l'histoire, pour rappeler qu'il y a 147 ans déjà, un roi de France avait été atteint dans sa chair. Ravaillac, l'homme qui assassina Henri IV. Ravaillac, le dernier Français écartelé, le régicide le plus célèbre de France. Sauf que Robert-François Damien n'a pas tué Louis XV. Deux jours après avoir été entaillé, le bon roi, comme on l'appelle, est remis sur pied. Mais déprimé, il passe des jours durant, enfermé. Et entre deux parties de dés, il rumine. Pourquoi chercher à le tuer ? Qui lui en veut à ce point ? Qu'a-t-il fait de mal ? Sauf que la liste de ce qu'on peut lui reprocher est longue. Longue comme la litanie de ses jeunes maîtresses qui défilent au château sous les yeux de la reine. Longue aussi comme sa relation avec Madame de Pompadour, sa favorite et intrigante, qui suscite toutes les haines et convoitises. Longue enfin comme la liste de remontrances que lui opposent les parlementaires. Cette noblesse de robe, chargée de faire appliquer la justice royale à travers les territoires, est de plus en plus contestataire. Cette élite se montre d'autant plus virulente que le roi a dicté un nouvel impôt qui les concerne. Oui, cette fois, les plus privilégiés du royaume sont mis à contribution pour financer la grande guerre qui se prépare contre l'Angleterre et la Prusse, celle qui va transformer pendant 7 ans le monde entier en un immense champ de bataille. Louis XV a des ennemis puissants. Ce Robert-François Damien, petit individu de rien du tout, simple domestique venu de l'Artois, cache-t-il plus gros ? Serait-il le simple exécutant d'un vaste complot, une sorte de Lee Harvey Oswald des temps jadis ? Enfermé dans la salle des geôles, sous la surveillance d'une cinquantaine de soldats, les chevilles ferrées, les pieds brûlés par les pinces incandescentes, Damien peut commencer à hurler. Or, il n'est qu'au tout début de son chemin de croix. Et pour l'accélérer, il va devoir cracher sa vérité.
Dit s'appeler François Damien, natif de la Thieulois à 5 lieues d'Arras, âgé de 40 ans environ, domestique sans condition. Interrogé sur ce qu'il est venu faire à Versailles, répond qu'il est venu dans la résolution de tuer le roi. Ensuite, nous dit que tuer, c'était trop fort et que s'il avait voulu le tuer, il en aurait été le maître. Interrogé sur le motif de son acte, a dit que c'était à cause de la religion. Sommé et interpellé de nous dire ce qu'il entend en nous disant que c'est à cause de la religion, a dit avoir entendu dire que tout le peuple de Paris périt et que malgré toutes les représentations que le Parlement fait, le roi n'a voulu en entendre aucune. N'est-il pas vrai que tout le royaume périt ?
Dès le lendemain de l'attentat, l'enquête commence. Versailles envoie des mouchards dans tout Paris pour capter dans les conversations des badauds la moindre information intéressante. C'est l'ancêtre des RG en quelque sorte. Ne manque que les caméras de surveillance. En tout cas, les patrouilles sont renforcées, les auberges surveillées, les courriers décachetés et lus. Sur chaque place publique, on fait battre le tambour et on relaie le signalement de Damien, espérant des témoignages spontanés. Bref, le pouvoir montre les dents, le royaume est en état d'urgence. Le duc de Croy, Emmanuel de son prénom, est dépêché en Artois. On lui a demandé d'enquêter sur l'histoire personnelle de ce Damien, faire la lumière sur son parcours et déceler d'éventuelles complicités. Alors, pendant des semaines, il sillonne la région dévastée par des décennies de guerre. Il retrouve et interroge les proches de Damien, non sans les faire embastiller au passage, et entame la rédaction d'un minutieux curriculum vitae. La vie tragique de ce petit domestique émerge dans ses mots. Une vie trop petite, trop minable pour attirer la moindre sympathie des élites du temps. Dans les journaux, on insiste sur sa laideur et sa méchanceté. De nombreux portraits sont réalisés, soulignant les traits déformés par la bestialité et la folie. Damien, le diable d'Artois, est né. Même Voltaire, le philosophe des Lumières, n'a pas de mot trop méprisant pour le décrire. Florilège.
Le monstre est un chien qui aura entendu aboyer quelques chiens et qui aura pris la rage. Ce petit bâtard de Ravaillac, ainsi son monstre, un misérable de la lie du peuple, nommé Robert-François Damien. Un homme dont l'humeur sombre et ardente avait toujours ressemblé à la démence.
Robert-François Damien est pourtant un bel homme. Il sait lire et écrire et semble plus intelligent que la moyenne. Il est né dans une famille modeste près d'Arras, l'année de la mort de Louis XIV en 1715, mort d'un tyran. En 1729, sa mère passe de vie à trépas et le cocon familial éclate. À l'âge de 14 ans, Damien quitte son père, ses frères et ses sœurs. Il ne les reverra plus pendant 30 ans. Il erre de petit en petit métier, avant de trouver sa voie, et se fait domestique à Paris, comme nombre de rejetons de ces régions précaires du Nord et de l'Est. C'est d'ailleurs une cuisinière lorraine, Elisabeth, qu'il épouse en 1739, et avec qui il a une fille, Marie-Elisabeth. La vie de ménage, quand on est laquais, n'est pas des plus simples. Damien change une quinzaine de fois d'employeur et passe de maison en maison, découvrant l'intérieur des grands parlementaires parisiens. Alors, ses oreilles traînent dans les salons, et son esprit se familiarise et s'enflamme sur les grands sujets du siècle des Lumières. L'absolutisme que l'on fustige, un peu quand même, les mœurs du roi que l'on condamne, ses impôts que l'on rejette. Influencé par les idées des parlementaires, Damien se monte la tête et son comportement devient erratique. Par nihilisme ou désespoir, il commet de première fois l'irréparable un an avant l'attentat contre le roi. En 1756, en effet, il vole 240 louis d'or à son maître parisien, une petite fortune, et prend la fuite vers le nord. En Artois, il renoue avec ses proches, partage son butin avec sa famille et poursuit sa cavale désespérée jusqu'aux Pays-Bas. Il se sait condamné à fuir, parce qu'à l'époque, le vol est puni de mort par pendaison. En vérité, Damien cherche à la fois à devancer en intégrant de l'arsenic, avant de trouver un moyen plus efficace pour mourir, s'attaquer au roi. Ce ne sera pas une mort pour rien. 3 jours avant l'attentat, il est de retour à Paris. Sa femme l'accueille secrètement dans sa couche. Il renoue aussi avec sa fille. Puis il fait ses adieux, annonce fuir vers les îles avant de payer un voiturier direction Versailles. Interrogé par les enquêteurs à la suite de la découverte dans sa chambre d'un sac plein de louis d'or, Elisabeth charge son mari et nie toute implication dans ses projets.
Votre mari, vous donnait-il beaucoup d'argent ?
Il m'en donnait quand il en avait gagné. Il en donnait peu et il me le jetait souvent comme à un chien. Il était brutal comme un cheval. C'est un homme sans religion, qui n'a peur de rien, et le crime qu'il a commis en est la preuve.
En quoi consistaient les actes de folie et les discours extravagants de votre mari ?
C'est surtout à l'occasion des affaires du Parlement. Il parlait mal des prêtres. Il disait qu'ils pourrissent le royaume et que s'il était en place, il ferait rendre justice au Parlement.
Quelle est donc cette affaire qui excite tant Damien ? Elle est longue et difficile à démêler, trouvant racine plusieurs décennies en amont. Il faut s'imaginer alors un paysage politique bouillonnant au milieu duquel le roi, tout puissant, arbitre entre deux camps. D'un côté, les très doctes jésuites, en charge de l'éducation des élites, mais aussi réputés agents de Rome et du pape, et que peu ou prou tout le monde déteste. De l'autre, les parlementaires libéraux et ambitieux qui ne prétendent rouler que pour le bien du peuple de France, mais qui aspirent aussi à obtenir plus de pouvoir. Ceux-ci sont épris d'une doctrine religieuse dissidente, le jansénisme, qui rejette autant le pouvoir du pape qu'elle interroge les excès de l'absolutisme. Pour éteindre la polémique, un mois avant l'attentat, le roi s'en est remis à un retentissant lit de justice, une sorte de 49-3 en costume. Par un acte d'autorité suprême, il met au pas ses parlementaires et prend le parti de l'Église. Les jansénistes sont officiellement considérés comme hérétiques. Le dernier sacrement leur est refusé. Jusque dans la vie, après la mort, le roi semble chercher à étouffer ses contre-pouvoirs naissants. Alors, Damien aurait-il agi en leur nom? Ou serait-il manipulé par les jésuites? Ou que sais-je, serait-il la main d'un coup monté d'une puissance de l'ombre, à Rome ou à Londres? Dans les geôles de Versailles, Robert-François Damien, qui n'en peut plus de souffrir, louvoie. Il laisse entendre par bribes l'existence d'un complot, comme pour contenter son auditoire, avant de se rétracter. Une nuit, un gentilhomme nommé Bello réussit à s'attacher à la sympathie du prisonnier. Il lui tend un papier et une plume, et Damien écrit une lettre au roi. Son authenticité, bien sûr, ne peut être garantie que sur la foi de ce Bello.
Sire, je suis bien fâché d'avoir eu le malheur de vous approcher, mais si vous ne prenez pas le parti de votre peuple avant qu'il soit quelques années d'ici, vous et Monseigneur le Dauphin et quelques autres périront. Et si vous n'avez pas la bonté pour votre peuple d'ordonner qu'on leur donne les sacrements à l'article de la mort, je vous réitère que votre vie n'est pas en sûreté. Il faut que vous vous en remettiez à votre parlement et que vous le souteniez avec la promesse de ne rien faire au nom ci-dessous.
S'ensuit une liste de 7 noms de parlementaires, parmi lesquels plusieurs anciens maîtres de Damien que sa lettre vient insidieusement mettre en jeu. Bon, c'est un peu gros quand même. Et d'ailleurs, ce Bello n'inspire aucune confiance, on le dit jésuite. Mais la prétendue lettre de Damien rejoint les pièces à conviction qui constituent le dossier. L'instruction débute et le royaume est en émoi. Qu'il soit l'instrument d'un ou de l'autre camp, Damien apparaît bien comme l'allumette qui pourrait embraser le pays.
We were the kings of the Attic. Dust was flying under the heat. Blood was squirting on the frets. Under our jumpers ran the sweat. Tension was strong and palpable. And we met monsters just like us. We were the kings of the Attic. We were the kings. The kings of the Attic.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, le supplice de Robert-François Damien.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
15 janvier 1753, 10 jours après l'attentat contre Louis XV, la machine judiciaire se met en branle. C'est au Parlement de Paris que revient la charge de mener l'instruction et de juger le régicide, crime de lèse-majesté auquel aucun de ces magistrats n'a jamais été confronté au cours de son existence. Ils seront réunis en grande chambre, c'est-à-dire dans un collège réunissant les plus expérimentés d'entre eux et certains membres de la famille royale. Leur action ne doit souffrir d'aucune contestation. Les parlementaires le savent, l'opinion les scrute, ils sont dans une position bien inconfortable, puisqu'ils vont devoir juger l'homme que la moitié du pays s'accorde à dire à son service. Dans la lettre qu'il adresse aux parlementaires, Louis XV se montre on ne peut plus clair sur ce qu'il attend du collège.
Les sentiments de religion dont nous sommes pénétrés et les mouvements de notre cœur nous portaient à la clémence. Mais notre peuple, à qui notre vie n'appartient pas moins qu'à nous-mêmes, réclame de notre justice la vengeance d'un crime.
Damien est transféré à la conciergerie sur l'île de la Cité et dès lors, les interrogatoires s'enchaînent. L'accusé est allongé sur une civière, les membres tenus par des chaînes de fer, le corps maintenu par des sangles de cuir, les yeux parfois bandés. Oh, il n'est pas encore l'heure de le torturer. Damien est déjà suffisamment amoché avec ses pieds brûlés et purulents. Souvenir de la geôle de Versailles. Les médecins et chirurgiens sont même aux petits soins pour repousser la mort qui guette. Celle-ci aussi doit respecter un certain rituel. Un condamné doit mourir en bonne santé. Mais plus Damien est questionné sur d'éventuelles complicités, plus la vérité se brouille. Comment coquin ose-t-il mentir après avoir fait serment de dire la vérité ? Le sermonne un jour le président Pompéou. Coquin, je le suis. Mais je fais mon affaire. Mon devoir est de vous dépayser, de vous empêcher de me pénétrer. Le vôtre est de faire en sorte de découvrir la vérité, répond-il joueur à un brin arrogant. Pendant plusieurs mois, tous ceux dans le royaume en mesure de lire le courrier d'Avignon et la Gazette d'Amsterdam se passionnent pour la procédure en cours. Pourtant, les informations sont peau de chagrin. Peu de choses filtrent, si ce n'est l'annonce de nouvelles arrestations, laissant imaginer que les enquêteurs mettent au jour une machinerie complotiste tentaculaire. Écoutons l'écho de cette excitation dans les gazettes.
Il ne transpire absolument rien des dépositions de l'assassin du roi. On a cependant arrêté bien du monde, ce qui fait croire qu'il a parlé. Les magistrats qui travaillent à l'examen de Damien paroissent savoir avoir fait du progrès dans cette affaire. Le parricide a commencé à s'expliquer plus clairement. Il a fait un aveu que l'on travaille à approfondir et dont l'éclaircissement terminera bientôt la procédure.
En vérité, rien ne vient jamais étayer ses soupçons. 85 personnes en tout sont interrogées, 16 sont embastillées. Mais ni le père de Damien, ni ses frères et sœurs, sa femme et sa fille, encore moins l'aubergiste ou l'artisan croisé ici ou là, ne sont en mesure d'éclairer un tant soit peu les zones d'ombre de l'affaire. Non, on cherche surtout à déceler l'identité de cette silhouette mystérieuse avec qui Damien s'était entretenu juste avant de passer à l'acte, celle que nous avons mentionnée au début du récit. Un homme mystère et même condamné par contumace, mais on ignore toujours qui il est. Plus épineux encore est l'interrogatoire des anciens patrons de Damien, parmi lesquels des parlementaires, mais aussi des jésuites. Étrangement, la plupart des témoins considérés comme dangereux, c'est-à-dire essentiellement les parlementaires qui se sont montrés le plus virulents contre le pouvoir, sont laissés tranquilles. Si on ne lui a pas trouvé de complice, c'est qu'on a fermé les yeux pour ne pas les voir, écrit un magistrat. Il est vrai que tout semble orchestré pour ne pas soulever trop la poussière, accélérer la procédure et se concentrer sur le bouc émissaire Damien. Dans les conclusions de son rapport d'enquête sur la vie de l'accusé, le duc de Croix trace une ligne claire qui arrange tout le monde. Damien est un fou, un fanatique, rien de plus, une tête brûlée. Dans les gazettes, la publication presque quotidienne de son portrait qui le montre en monstre, répugnant et fou, influence l'imaginaire collectif. Alors, sa personnalité dégoûte autant qu'elle trouble. Mais qui est-il vraiment ? Réponse dans la Gazette d'Amsterdam du 12 février.
On voit toujours un être indéfinissable, une tête chaude, pleine de feu et de fumée. Un effronté qui, de sang-froid, tombe dans de perpétuelles contradictions. un insolent qui s'énonce assez bien, mais sans aucun respect humain. Un scélérat à qui il échappe quelquefois des regrets, mais jamais de remords. Un jaseur énigmatique qui, dans certains moments, laisse entrevoir qu'il a des complices et qui persiste toujours à dire qu'il n'en a point.
Dans sa cellule de la conciergerie, Damien essaie de se reposer entre deux interrogatoires. Il est là. Il dit qu'il l'a déjà dit et n'a que faire de le répéter tant de fois, peut-on lire dans les transcriptions. L'homme se montre, au fond, assez cohérent sur son mobile. Ses explications ne varient pas, encore faut-il les entendre. Ses intentions n'étaient pas criminelles. Il n'a aucune haine envers Louis XV. Et d'ailleurs, pourquoi ne l'aurait-il pas tué, si tel était son but? Non, il voulait simplement, et il le dit en ces termes, toucher le roi. Un geste presque affectif. Oui, toucher pour l'émouvoir. Toucher le roi, car il est entendu qu'il est impossible de lui parler directement et que pourtant il est urgent que Louis, reclus dans sa vie de cour et de faste, renoue avec les gens du bas, les miséreux. Ces corps anonymes, pour paraphraser la grande historienne Arlette Farge, que le roi n'ose plus approcher, même pour s'affranchir de ce rituel millénaire qui conférait à son corps sacré le pouvoir de guérir des maladies par un simple contact charnel. Si le roi Thaumaturge ne peut plus toucher les écrouelles, que reste-t-il de sacré chez lui? Damien ajoute, en rien mégalo, « Je voulais mourir ainsi que Jésus-Christ dans la douleur et les tourments pour le peuple. » Bon, ces soliloques messianiques ont de quoi faire sourire les magistrats. Et dans l'entourage du roi, on répète au souverain ce qu'il est bon qu'il entende. À savoir, Damien, ce vaurien qu'on se refuse même à nommer, est un fou, un enragé. Le 26 mars, après 2 mois de procédure très médiatisée, Damien est amené alité au milieu de la grande chambre du palais. Il ne peut voir sous son bandage les yeux des 60 juges en robe d'apparat qui le contemplent, et derrière eux, toute une société qui attend la juste punition. On le fait se lever, faire quelques pas, ces derniers, pour s'asseoir enfin sur le siège du jugement, écrit déjà depuis 147 ans, puisqu'il reprend dans les grandes lignes celui prononcé à l'encontre de Ravaillac, l'assassin d'Henri IV. Comme si on avait ressorti le vieux livre de recettes de supplice et ouvert à la page « Punir un régicide ». Extrait et programme des réjouissances.
La cour déclare le dit Robert-François Damien, atteint et convaincu de crimes de lèse-majesté divine et humaine, au premier chef pour le très méchant, très abominable et très détestable parricide commis sur la personne du roi. Le dit Damien doit faire amende honorable devant la principale porte de l'église de Paris, où il sera mené, tenant une torche de cire ardente et là, à genoux, demander pardon. Conduit à la place de grève et sur un échafaud qui y sera dressé, il sera tenaillé aux mamelles, bras, cuisses et gras de jambes, la main droite tenant le couteau qui a servi au crime et brûlé de feu de soufre. Sur les endroits où il sera tenaillé, on lui jettera du plomb fondu, de l'huile bouillante, de la poix résine brûlante, de la cire et du soufre. Ensuite, son corps tiré et démembré à 4 chevaux et ses membres et corps consumés au feu, réduits en cendres et ses cendres jetées au vent.
Le matin du 28 mars, avec un sens aigu de la litote, Robert-François Damien déclare « La journée sera rude. » Quoi qu'il en soit, l'événement est extraordinaire et il est préparé à la hâte. Les balcons donnant sur la place de Grève sont tous loués à prix d'or. On monte même des tribunes et des balustrades provisoires autour de l'échafaud bordé de palissades. Le théâtre du châtiment est prêt. Des milliers de Parisiens se précipitent alors dès les premières lueurs de l'aube sur le parcours du supplicié. Plus on a peur pour le roi et la paix dans le royaume, plus on désire ardemment voir le monstre expier ses fautes. Des bourreaux de toute la France ont été appelés en renfort pour venir soutenir la famille en poste à Paris, les Sansons. Leur mission est ardue. Personne n'a l'expérience ni le savoir-faire en matière d'écartèlement. Il faudra improviser. Les portes de la conciergerie s'ouvrent. Damien rencontre enfin son public. Il le toise du regard, imperturbable. Les Parisiens, eux, découvrent le visage humain de celui qu'ils ont tant fantasmé pendant 3 mois. Devant Notre-Dame de Paris, Le condamné s'effondre, la tête contre le sol, il demande pardon. Sur la place de Grève, les belles dames et gentilshommes se distraient comme ils peuvent en attendant le début des hostilités. Même le séducteur vénitien Casanova est là. Mais lui comme les autres n'ont pas fait le déplacement que pour prouver au roi leur fidélité, pensez-vous. Aussi par attrait pour le divertissement cruel. Sauf que Louis XV, lui, ne vient pas et qu'il refuse que quiconque lui raconte le supplice. Il dit qu'il n'est pas à l'aise avec l'idée. Et voilà la charrette du condamné qui approche. L'excitation monte, les tenailles, l'huile bouillante, les fers, les chevaux, tout est prêt. 3 heures plus tard, les hurrahs de la foule ont cessé. Oui, les spectateurs ont des haut-le-cœur. Casanova n'ose plus regarder la scène. Le corps encore vivant de Robert François Damien est suspendu dans les airs. Sa peau est brûlée, déchirée de toutes parts. Ses 4 membres tendus à l'excès, tirés par 2 jeunes chevaux qui ne peuvent plus. Non, le corps du régicide refuse de lâcher. Il faudra l'aider à la hache. Un détail effrayant frappe alors le jeune Charles-Henri Sanson, 14 ans. Les cheveux bruns de Damien sont devenus complètement blancs. Autour de lui, son équipe de bourreaux est désemparée. Le patriarche a jeté son tablier au premier cri déchirant. Il n'en peut plus, il n'officiera plus jamais. Charles-Henri, lui, tient le coup, mais il est marqué à vie par cette première fois effroyable. Il militera bien plus tard pour l'instauration de la propre guillotine. Mais alors que le corps du régicide Damien disparaît enfin dans le feu, impossible pour le jeune Sanson d'imaginer déjà que 35 ans plus tard, il sera, lui, en charge de trancher la tête du roi, numéro 16, à l'occasion d'une révolution salutaire qui aura débarrassé les Français pour un temps de l'horreur monarchique.
France Inter. Affaire sensible. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, le supplice de Robert François Damien. Nous en parlons avec notre invité Nicolas Vidoni. Bonjour.
Bonjour.
Historien spécialisé dans la police du XVIIIe siècle, vous êtes maître de conférences en histoire moderne à l'université Aix-Marseille, auteur du chapitre consacré au procès de Damien dans l'ouvrage « Les grandes affaires criminelles du Moyen-Âge à nos jours », livre paru chez Tempus en 2022. D'abord, état des lieux des connaissances historiques sur cette affaire, complot ou pas complot ?
Si je réponds trop rapidement, je vais pas me faire des amis. Non, pas complot apparemment. Dans ce qu'on retrouve des archives du procureur général Joly de Fleury, qui est procureur général au Parlement de Paris, qui centralise en réalité toutes les informations, non, il n'y a pas de complot, c'est-à-dire qu'il a récupéré tout un ensemble de documents, d'enquêtes, de procédures, qui montrent qu'en réalité, on ne trouve personne. On aimerait trouver quelqu'un, mais on ne trouve personne. Et a priori, l'enquête s'est prolongée pendant une année ou deux après. On n'a jamais trouvé le fameux quidam que vous évoquiez tout à l'heure. Et donc, pas de complot.
Alors, quand survient cette affaire, au milieu de la décennie 1750-1760, le royaume de France, effectivement, est dans une impasse politique et religieuse. Est-ce que cet attentat contre Louis XV cristallise toute la tension de l'époque ? Parce que la cour de Versailles, hein, le pouvoir de Rome, les belligérants de la guerre de 7 ans, les jésuites, les jansénistes, les parlementaires, bien, tout le monde va être accusé d'avoir voulu assassiner le roi, comme si chacun avait de bonnes raisons de l'assassiner.
Oui, elle cristallise en réalité toutes les tensions, mais surtout elle a été rendue possible par toutes ces tensions. C'est-à-dire que 13 ans auparavant, en 1744, Louis XV en réalité mène un siège à Metz au cours de la guerre de succession d'Autriche. Il tombe malade, une maladie assez bénigne, et là tout le royaume s'inquiète pour sa santé. On voit partout des Tédéum qui sont chantés, on voit des messes et d'actions de grâce qui sont proclamées, et on voit véritablement que la population s'inquiète pour lui. En 1757, en réalité, les gens s'inquiètent beaucoup moins. Vous l'évoquiez tout à l'heure, on dit certes des Tédéum, mais en réalité, dans les villes de province et même à Paris, au fond, on s'inquiète un peu moins. Et ce qui a changé en réalité, c'est que la population, parlementaire, peuple, a manifesté en 1757 ce qu'on appelle un désamour pour le roi, c'est-à-dire qu'on aime moins le monarque. Et c'est ce qui a rendu possible en réalité le geste de Damien, qui intervient à un moment où on s'est habitué collectivement à moins aimer ce monarque qui était sacré. On l'a en quelque sorte désacralisé. C'est ce qui a rendu possible le geste de cet individu qu'on qualifie d'isolé et qu'il était.
Et pourtant, on l'appelait le roi bien-aimé.
Oui,
au début,
ça...
qu'est-ce qui lui conférait cette appellation qui était très flatteuse?
C'est justement cette maladie de 1744 qui fait que depuis on l'appelait le bien-aimé, parce que tout le monde s'était levé pour dire « Ah, bah, vraiment, ce roi sacré, il est le digne représentant d'un héritage millénaire, etc. etc. » Et donc on trouvait qu'il était l'incarnation véritablement d'une monarchie qu'on aimait. C'est un lien politique, l'amour entre les sujets et le roi, et ce lien politique se désagrège en l'espace de 13 ans, pour les raisons que vous avez évoquées tout à l'heure, son comportement personnel, le fait qu'il ne touche plus les écrouelles, il va donc lui-même désacraliser en réalité les gestes de la monarchie.
Le roi thaumaturge.
Le roi thaumaturge, il ne l'incarne plus parce qu'il ne veut pas le montrer. Mmh. Et donc on commence à se déprendre un petit peu de l'amour filial qu'on doit théoriquement pour ce monarque. Et c'est ce qui fait que dans les procédures de condamnation de l'attentat de Damiens, on utilise le terme de parricide. Il n'est pas seulement un régicide, il est un parricide, c'est-à-dire qu'il a voulu tuer le père, le père de ses sujets, mais c'est ce désamour qui a rendu possible ce parricide.
Et alors son attitude vis-à-vis de cette affaire est étrange, l'attitude du roi, puisqu'au final on ne va pas beaucoup l'entendre, il va se cloîtrer dans sa réserve, il ne veut même pas qu'on lui explique le supplice. Alors il a une formule... très atténué, on dit qu'il n'est pas à l'aise avec ça.
Oui, alors, Louis XV, il y a une partie qui ressortit à sa personnalité, c'est-à-dire que c'est plutôt un taiseux, c'est pas un roi qui est à l'aise, il a vraiment dû, en quelque sorte, assumer la fonction à contre-cœur. Bon, il l'a fait avec un autoritarisme très grand, et finalement, il l'a très bien vécu, il ne faut pas s'inquiéter pour lui. Mais simplement... C'est pas quelqu'un qui aime être en public, c'est pas quelqu'un qui aime communiquer, comme on dirait aujourd'hui. Et pour toutes ces raisons, en réalité, il ne s'occupe pas de ce qui se passe et il met à distance ce geste que lui-même ne comprend pas. Mmh. Et si on faisait un peu de psychologie historique, mais c'est toujours un peu dangereux de mettre sur des époques précédentes ce que nous, on peut penser, on verrait qu'en réalité, il a voulu se détacher de cet acte qu'il ne comprenait pas. Et on remarque qu'en réalité, personne ne l'a compris. C'est ce qui fait que les juges, les officiers du Parlement qui instruisent la procédure, cherchent à comprendre pourquoi cet homme a agi ainsi. Et le seul recours qu'on trouve pour expliquer son geste, c'est la folie.
France Inter. Affaires sensibles.
Que la vie de Denis étonnante est la réaction des philosophes des Lumières vis-à-vis de Damiens, avec les mots très durs de Voltaire qu'on a fait entendre.
Alors, de la part de Voltaire, non, il n'y a rien d'étonnant, parce que Voltaire, on est souvent en fait trompé par la lecture qu'on a de la Révolution française, qui attribue à Voltaire l'origine de la Révolution française. Mmh. Voltaire était un libéral, mais surtout pour lui-même et pour l'élite sociale. Mmh. C'est-à-dire que ce qu'il voulait, c'était des libertés pour les grands, pour ceux qui pensaient. En revanche, pour le peuple, il avait une tendance à animaliser le peuple, c'est-à-dire qu'il considérait que le peuple était une chose informe, qui était incapable de tenir un discours politique, d'avoir des idées, de sentir et de penser, hormis de façon animalisée, naturalisée, qui ne pouvait réagir que par des émotions qui étaient évidemment violentes, ce que lui n'était pas puisqu'il était distingué et civilisé. Et donc c'est ce qui fait que Voltaire est incapable de comprendre culturellement le geste de Damiens. En revanche, le geste de Damiens, il a été interprété à l'époque, d'un point de vue politique, pour questionner ce qu'on appellerait, nous, la légitimité. Dans quelle mesure est-on fondé à parler? Dans quelle mesure est-on fondé à s'adresser au roi? Et qui peut le faire? Et c'est là où, en réalité, il y a une diversité d'opinions et d'interprétations qui vont surgir au siècle des Lumières. Des gens vont dire, eh bien, le peuple est apte à le faire. Robespierre s'en fait l'écho en 1789, en 84 également. Mmh. Des parlementaires, les officiers du Parlement, vont dire non, le peuple, évidemment, ne peut pas parler, parce que sinon, ce serait la subversion de l'ordre social. Et il faut se souvenir qu'ils sont au sommet de la hiérarchie sociale, donc ils ont tout intérêt à garder un ordre social fixe et conservateur.
Ouais, aller mourir pour le peuple, oui, vivre avec lui, non. En gros,
exactement.
C'est ça.
Exactement.
Alors, l'affaire admet un point de départ curieux. L'absurdité avec laquelle un simple domestique peut se faufiler à travers la sécurité et atteindre le roi. Versailles était un moulin?
Oui. Il y a une tradition, là encore, historique en France, c'est que, à la fin du Moyen-Âge, le roi est accessible à tous ses sujets. C'est-à-dire qu'au cours du repas ou au cours de sa vie quotidienne, eh bien, les sujets peuvent l'interpeller et peuvent se rendre physiquement à côté de lui et lui parler. Et ce qu'on voit au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, c'est une mise à distance de la population, c'est-à-dire des sujets, vis-à-vis de la personne du roi. Mmh. On va empêcher ces sujets de l'approcher, et on va protocoliser en quelque sorte l'accès au roi, qui se fait dans le cadre de Versailles. Alors il faut imaginer Versailles, c'est une bulle qui est réservée à la noblesse, dans laquelle le roi contrôle les grands nobles. Eh bien, on va inventer ce qu'on appelle l'étiquette, qui va permettre de réglementer l'accès au roi. Et dans cette étiquette, eh bien, il y a des failles, c'est-à-dire que Versailles est ouverte quand même au public. Alors, c'est un public pour visiter, hein, c'est au sujet. Et donc, on peut se faufiler comme ça, surtout dans des moments où le roi... Là, c'est un moment de sa vie privée, hein, au moment où il est attaqué. Surtout les moments où le roi, en fait, n'est pas en représentation officielle. Mmh. Et donc là, il y a un dispositif de sécurité qui est moindre. Et c'est ce qui fait, et ce qui rend possible l'accès à ce roi. Et on voit donc un des gens qui parcourt le parc. Il n'y a rien d'étonnant à ça. Et donc, c'est pour ça que les gardes ne réagissent pas. Ils voient quelqu'un qui passe. Bon, ils sont choqués qu'il n'enlève pas son chapeau, mais ils ne sont pas choqués qu'il soit là.
Quelle est la part de réputation et les préjudices sur sa réputation que peut entraîner son goût pour les femmes ? Je parle de Louis XV. Est-ce qu'on en parlait beaucoup ou est-ce qu'on en parle plus maintenant, alors qu'à l'époque, bon, vous disiez pas...
Alors, à l'époque, il y a un principe qui est simple, c'est qu'on ne peut pas en parler. Tout le monde en parle.
Oui.
Alors, un préjudice, ce serait dur de le dire, parce qu'en réalité, il est jugé par rapport au rôle qu'on attend de lui et qu'il tienne. Louis XV, en réalité, il a des maîtresses, c'est un statut qui est officiel, hein, quasiment, il n'est pas le premier, ses prédécesseurs en ont eu aussi également, et en réalité, tout le monde s'en est toujours accommodé, ça ne choque personne. Le problème intervient au moment où ça va entrer en contradiction avec la moralité chrétienne et le devoir qui incombe au roi d'être le garant d'une bonne moralité, le représentant d'une bonne religion. Et ce qu'on lui reproche en réalité, c'est pas tant ses maîtresses, c'est l'influence de Madame de Pompadour.
Ah oui.
Madame de Pompadour, qui est vraiment un animal politique, c'est vraiment quelqu'un qui va faire et défaire des coteries, qui va parvenir à nommer des ministres, à nommer des officiers, à obtenir en réalité l'orientation d'une politique par des groupes et des coteries qu'elle va constituer à la cour. Elle tient vraiment en partie les rênes du pouvoir. Et il faut voir là en réalité un stéréotype misogyne de l'époque qui considère que les femmes, étant inférieures naturellement, ne peuvent pas commander. Et donc ce qu'on reproche à Louis XV, c'est en réalité d'être inféodé à une femme de nature inférieure, et donc de ne pas respecter l'ordre naturel du commandement entre sexes, et du commandement qui lui incombe, c'est-à-dire d'être un roi absolu, d'une monarchie absolue.
Bien, c'est extrêmement clair. Alors, difficile de se projeter aujourd'hui sur la manière de mener des enquêtes policières et des procédures judiciaires au XVIIIe siècle pour bien comprendre. Sur cette affaire, par exemple, qui enquête et qui juge ?
Alors, le principe à l'époque, c'est qu'on a tout un ensemble de personnes qui vont agir pour ce que nous, on appelle la police ou la justice, qui ne sont pas des officiers. Que voit-on ? On voit tout d'abord le prince de Croix, vous l'avez évoqué tout à l'heure, qui est envoyé en Artois pour mener une enquête. Et comment fait-il ? Eh bien, dans les lieux qu'il parcourt, c'est-à-dire les lieux qu'il identifie comme ceux qui ont été traversés par Damien, il va se référer aux autorités locales, au curé, et il va leur dire « L'avez-vous vu ?» Oui, on l'a vu dans telle auberge ou dans tel lieu, et donc il va demander aux personnes qui l'ont croisé un témoignage. Premier type d'enquête. Deuxième type d'enquête dans le cas parisien, c'est beaucoup plus spécifique. On va utiliser ce que vous avez appelé des mouches de police, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas des officiers de police, mais qui travaillent pour des officiers de police, notamment les inspecteurs. On va leur demander en fait de s'installer dans des cafés, de pénétrer dans des lieux d'accueil, c'est-à-dire des lieux où il y a des personnes qui viennent boire. En général, c'est des lieux de sociabilité hein, qu'on investit. Mmh. Et on va leur demander d'écouter. Et que font-ils ? Ils font des rapports à l'inspecteur, qui lui-même les met par écrit, et les renvoie au lieutenant de police.
D'accord.
Et ce lieutenant de police, par une chaîne policière et judiciaire, va faire remonter l'information au ministre, au roi. Le roi était friand hein, de ces lectures. Et on va découvrir à cette occasion que tout le monde, ou presque, parle mal du roi.
Mmh.
Ça ne veut pas dire qu'on appelle à le
renverser, mais il a plus la cote, quoi.
Ah, il n'a plus la cote.
La cote d'amour.
Non, pas du tout. Et donc, on lui reproche sa politique religieuse et sa politique fiscale.
Bien. Donc ça, les enquêteurs, alors, si on faisait un parallèle avec aujourd'hui, ce ne serait pas finalement les RG, mais plutôt des détectives privés au service de l'enquête publique. Hein, ce serait plutôt ça.
Bon. Alors, ce n'est pas des détectives privés, c'est en général des malfrats qui sont des repris de justice. Et les inspecteurs qui les connaissent bien parce qu'ils les ont arrêtés quelques mois auparavant, en fait, les font sortir de prison.
Oui.
Et les utilisent parce qu'eux connaissent les réseaux de malfrats à Paris ou les endroits où c'est un peu chaud, comme on dit à l'époque. Et donc, ils peuvent y revenir, écouter sans éveiller l'attention du public.
D'accord. Alors, l'affaire est ancienne. Et donc, on a dit qui enquête. Bien. Qui juge maintenant ?
Alors, qui juge ? C'est la Grande Chambre du Parlement. Là, c'est une forme de justice qu'on pourrait qualifier d'exception, parce que c'est une forme qui est rarement employée. Alors, la Grande Chambre, c'est qui ? C'est les principaux officiers du Parlement, qui est la cour souveraine du royaume à l'époque. Il faut imaginer que c'est une cour qui réunit ce que nous, on appellerait la justice civile, la justice criminelle, et la justice administrative, le contentieux administratif, donc un mélange de Conseil d'État, Cour de cassation et peut-être même Haute Cour de justice. Mmh. Alors cette Cour, elle réunit une formation qui est particulière, la Grande Chambre, puisqu'on va intégrer dans cette Grande Chambre les grands princes du royaume pour les associer à la décision judiciaire qui va être prise. Et quel est le but de cette manœuvre ? C'est évidemment d'éteindre toute contestation de la part de la noblesse, en particulier de Robe, qui conteste la politique à l'époque de Louis XV en matière fiscale et religieuse. Et donc Louis XV désigne les parlementaires dans une formule exceptionnelle pour leur dire « Voilà, vous êtes véritablement mes officiers, c'est à vous que je délègue le soin de juger celui qui a attenté contre ma vie ». Quelle meilleure preuve que, en réalité, ma fidélité à votre égard, que de vous désigner ainsi.
C'est un fin politique aussi. Hein.
C'est un fin politique, hein. C'est un, ouais. Vraiment un chausse-trappe là, dans lequel il les a glissés.
Alors, il y a quand même quelque chose d'étonnant, c'est que pour la première fois, à la fois le public qui assiste à l'exécution, on a vu, hein, c'était vraiment des spectacles, il y avait une certaine forme d'excitation quand il y avait une bonne exécution. Bah, sauf que là, on tourne de l'œil quand même. Hein. On tourne de l'œil, même les bourreaux sont traumatisés, ce qui y a là une bascule.
Alors, il y a un contresens qu'il ne faut pas commettre, il n'y a pas une bascule par rapport à la peine de mort, c'est-à-dire que tout le monde est convaincu encore que la peine de mort doit perdurer.
J'entends bien, mais c'est les modalités de l'exécution.
Oui, oui. En fait, ce qui a choqué le public, c'est que l'exécution a été mal pratiquée. En réalité, le sens de ce qu'on appelle un rituel judiciaire à l'époque, l'exécution, que ce soit une exécution à mort ou autre, c'est qu'en réalité, elle va devoir rappeler la gravité du crime par des gestes précis, et elle va devoir en quelque sorte restaurer l'ordre social qui a été mis à mal par le crime, en répétant des gestes qui vont en quelque sorte inverser la faute. C'est pour ça qu'on fait subir au corps de Damien ces atrocités. On va lui brûler les mains, la main avec laquelle il a porté le coup de canif, on va lui couper, et on va ensuite le démembrer pour en quelque sorte montrer que son corps n'existe plus. On va le réduire en cendres pour effacer sa mémoire, et on l'oublie souvent, mais on va disperser ses cendres aux quatre vents, c'est-à-dire qu'on va mettre fin à son existence et à sa mémoire.
Ouais.
Et ça, c'est très important. On a pour but de ne plus parler de cette affaire. Et ce qui choque en réalité le public, c'est que le bourreau n'y arrive pas. Il n'arrive pas à écarteler le pauvre Damien. Alors, il faut imaginer, hein, il y a quatre chevaux qui tirent les quatre membres. On est obligé de changer les chevaux, tellement il n'y arrive pas.
L'horreur.
Et à la fin, pardon de rentrer dans ces détails, mais il faut couper les membres pour pouvoir procéder à l'écartèlement.
Ah oui.
Et c'est ça qui choque le public dans ce siècle de civilisation, c'est trop.
Bon, et puis, le bon docteur Guillotin arrive avec sa guillotine, la mort instantanée, donc on change quand même de paradigme. C'est-à-dire que avant on donnait la mort, mais il fallait s'offrir avant de mourir. Bon, là, on donne la mort et ça suffit comme ça. Bien, merci infiniment Nicolas Vidoli, c'était très intéressant, très éclairant. Merci, au revoir.
Merci.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le supplice de Robert-François Damien, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Philippe Duclos.